Good morning.
Bonjour.
Good morning.
Bonjour. Ça y est, c'est parti. Alors bonjour à tous. Il s'agit maintenant d'une séance intercommunautaire sur le RGPD. Alors, il s'agit donc du règlement global sur la protection des données qui a été adopté en mai 2016 pour les sociétés qui traitent les données personnelles des personnes européennes, des citoyens européens, où que se trouvent ces entreprises. Alors, tout comme lors de l'ouragan Maria, qui en fait ciblait les États-Unis et le Porto Rico s'est retrouvé sur la route de Maria, je crois que le RGPD, c'est un ouragan qui se dirige sur l'ICANN. Alors, l'objectif de la séance d'aujourd'hui, c'est que les directeurs de l'ICANN proposent le modèle intérimaire qui a été proposé par l'ICANN. Et ensuite que plusieurs membres de la communauté réagissent à ce modèle ainsi qu'au processus pour faire passer le modèle de la situation actuelle à la situation à venir. Alors, un petit rappel par rapport au processus de la communauté d'abord et ensuite nous aurons une partie questions-réponses. Alors, nous avons 20 minutes de retard. Nous espérons que s'il n'y a rien d'autre dans cette salle à midi, eh bien cela veut dire que nous pourrons rattraper le retard et faire notre question-réponse après. Alors, nous allons commencer de gauche à droite pour les présentations. Nous avons Yoran Marbi, PDG de l'ICANN, John Jeffrey, directeur juridique de l'ICANN, Nick Wendemsmin de Nominet, Thomas Rickard de ECHO, l'association du secteur de l'Internet et auteur du livre sur le RGPD, Catherine Aubust de la Commission européenne, Patrick Charlie de la Coalition sur la responsabilité, Tim Chen avec Domain Tools, à côté de lui Stéphanie Perrin, avec le groupe des entités non commerciales, et Alan Greenberg de l'ALAG, président de l'ALAG. Et je suis votre modérateur, votre animateur. Je vais passer la parole à Yoran qui va passer au processus qui nous permettra de décrire le modèle provisoire. Yoran au micro, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être avec vous de nouveau. Ça fait 30 minutes qu'on ne s'est pas vu. Alors, je vais être bref. Et la première chose que je souhaite dire, c'est encore une fois, merci à vous tous qui contribuez à ce travail. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 6 mois, nous avons vraiment commencé à discuter de la conformité au RGPD. Et une des choses que nous avons fait au fil du temps, c'est que... En fait, je n'ai rien à dire, donc peu importe si vous ne m'entendez pas. Merci, Rika, pour votre aide. Est-ce que ça va mieux maintenant? Ça y est? Vous m'entendez? Super, merci. Alors, le processus a commencé par la reconnaissance selon laquelle l'ICANN en tant qu'entité, non seulement en tant qu'institution, mais en tant qu'entité, a une obligation par rapport à cette loi, en tant que contrôleur. Cela veut dire que moi, en tant que PDG, à un moment ou à un autre, je dois prendre une décision par rapport à la conformité de l'ICANN à cette loi. Donc voilà. Il a fallu faire quelque chose. Lorsqu'on a décidé d'inventer un processus, en fait, un des processus fondamentaux, c'est produit. Nous n'avions pas, en fait, de plan pour organiser la discussion. Vous vous êtes adapté à ceci, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de transparence, et donc nous en sommes à un point important du processus. Cette semaine, nous avons envoyé aux APD européennes une proposition qui, selon ce qu'il nous semble, permettrait à l'ICANN d'être conforme à la loi. Mais il y a un problème, parce qu'il y a plusieurs questions qui n'ont pas encore de réponse, et j'espère que cette séance permettra d'y répondre. Il y a des équilibres qui n'ont pas été en place. Nous n'avons pas toutes les réponses, et ça, c'est des deux côtés, dans les deux camps. Les États membres de l'Europe doivent nous fournir des avis fermes avant que la loi soit adoptée ou soit en vigueur. J'ai eu une excellente discussion avec les membres du groupe de travail article 29. Alors, la possibilité de mettre en application notre contrat sera diminuée si nous n'arrivons pas à une solution. Parce que le groupe de travail, de sa propre perspective, doit voir comment il faut interpréter cette loi. Donc, c'est une situation qui veut dire que le WIZ sera fragmenté. Je crois que ce n'est pas bon, évidemment. Donc, une des questions à laquelle il nous faut répondre aujourd'hui, c'est de savoir ce que font les États membres de l'Europe pour nous aider dans ce domaine, pour répondre à cette question avec donc le concours des APD. Donc, je vais maintenant passer la parole à JJ qui va parler du modèle provisoire et hybride. John Jeffrey au micro. Alors, on va tester le micro. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Alors, la première diapositive, nous allons donc l'afficher. Je retourne en arrière. Très bien. Il faudrait que les techniciens affichent les choses correctement. C'est difficile à voir. Merci. Alors, la diapositive que vous voyez comporte différents modèles qui ont été soumis dans la communauté. Nous avons essayé d'intégrer des facteurs clés. Donc, il y a certains changements qui sont internationaux et des changements qui concernent uniquement l'Europe. Et donc, l'accès public et l'accès des données avec diligence raisonnable. Donc, comme vous le voyez, il y a diverses méthodes pour traiter le WIZ dans le cadre des règles du nouveau RGPD qui va être adopté. Et donc, certaines des règles qui ont été adoptées depuis un certain temps aussi. Mais quoi qu'il arrive, il y aura des modifications apportées au WIZ tel que nous le connaissons. Le changement fondamental qui a été accepté par pratiquement toutes les communautés, c'est qu'il y aura en fait une démarche sur plusieurs niveaux, sur plusieurs couches. Donc, il y aura un ensemble de données qui seront collectées dans le WIZ. Il y aura une partie publique du WIZ, des aspects que l'on pourra voir publiquement, de la même manière que vous pouvez voir maintenant la totalité du WIZ de manière publique. Et il y aura d'autres informations qui ne seront pas publiques, qui auront un accès restreint. Donc, voilà la proposition qui a été faite par l'ICANN. Donc, il s'agit d'un modèle intérimaire de conformité. Et si cela est approuvé par la communauté et le conseil d'administration, cela fera partie du contrat. Où en fait, il s'agira d'une dérogation qui s'appliquera aux opérateurs de registre et aux bureaux d'enregistrement. Cette proposition que nous avons faite n'est pas une proposition définitive, d'accord ? C'est une proposition provisoire. C'est le modèle que nous avons envoyé aux APD vendredi, ainsi qu'un livre de recettes, pour ainsi dire, qui décrit les détails des différents éléments. Alors, pourquoi avons-nous... qui explique en fait pourquoi nous avons sélectionné tel élément dans le modèle. Donc, il y a 4 catégories principales dans ce modèle. Si vous en avez déjà entendu parler, vous comprendrez. Donc, collecte des données et rétention des données. Comment s'applique le modèle? Qu'est-ce qui sera démontré dans le WIZ? Qu'est-ce que ça, en fait, accessible dans le WIZ public et l'accès au WIZ non public. Donc, je vais vous détailler ceci rapidement. La description est beaucoup plus détaillée, celle qui est publiée. Donc, ce qui est collecté, donc le modèle provisoire de l'ICANN, ce sera les données détaillées, donc analyse détaillée de tous les champs qui sont actuellement collectés dans le WIZ public. Nous pensons qu'il y aura une opportunité d'anonymisation, mais ça viendra du processus de politique, donc de la communauté, plutôt que ce soit l'organisation de l'ICANN qui s'engage dans cette proposition. Dans certains domaines, certains secteurs de la communauté ont été utilisés, mais il y a des champs qui n'ont... Nous n'avons pas trouvé de champs qui étaient utilisés. Nous avons regardé les commentaires et les analyses. Alors, par rapport aux données qui seront transférées du registre du bureau d'enregistrement au registre. Donc toutes les données transférées aux parties tierces, aux agents d'entiercement. Donc il s'agit des parties tierces qui détiennent les données et qui ont un contrat direct avec l'ICANN avec confidentialité. Ces données sont uniquement utilisées dans les cas où il y a un audit des données pour les bureaux d'enregistrement ou pour les opérateurs de registre, ou s'il y a besoin en cas de violation qui entraîne une non-accréditation dans le cadre des contrats avec les bureaux ou les opérateurs. En ce qui concerne la conservation des données, alors là, c'est un domaine où les gens avaient beaucoup de divergences d'opinion pour le modèle. Mais il existait certaines dérogations pour les bureaux d'enregistrement européens. L'ICANN a sélectionné la vie de l'enregistrement plus 2 ans. L'applicabilité. Est-ce que le modèle doit être appliqué au niveau mondial ou uniquement dans la zone économique européenne? Donc, pour nous, de toute évidence, ça doit s'appliquer à la zone économique européenne. Et il est possible que ce soit également applicable au niveau international. Et il y a un certain nombre de raisons à cela. S'il y a des questions, on rentrera un petit peu plus dans les détails là-dessus. Mais je crois qu'il y a un raisonnement qui est lié aux besoins des opérateurs de registre et des bureaux d'enregistrement de faire la différence entre les titulaires de noms de domaine qui sont situés dans la zone économique et ceux qui n'y sont pas. Et donc, parfois, il est un petit peu difficile de savoir qui est où. Par rapport au type de détenteurs de domaines qui sont affectés, donc il y a la question de l'enregistrement des entités juridiques et des entités physiques ou des personnes. Donc, dans le WHOIS public, dans le cadre du nouveau modèle, le nom, dans le WHOIS public, on ne voit plus le nom du titulaire, mais on voit le nom de l'organisation, si cela est en vigueur. Donc, l'adresse postale serait limitée aux informations relatives à l'État, la province et au pays, de manière à établir la juridiction pour savoir où se trouve la partie, mais on n'aurait plus la rue, la ville ou le code postal dans le WHOIS public. Pour ce qui est des emails et de l'administrateur du contact technique, donc pour certains, ils pensaient qu'il ne fallait plus publier, d'autres qui disaient qu'il fallait publier les emails. Et donc, l'approche a été intéressante à la fois dans le modèle éco et dans le modèle responsabilité et de la coalition. Donc, nous avons eu l'opportunité de créer un email anonymisé ou un forum web donc pour contacter par ce biais-là. Donc, c'est quelque chose, un formulaire en fait web qui permet de contacter le titulaire de nom de domaine. Alors, les noms des contacts, admin, tech et les numéros de téléphone, donc code postal du technicien et de l'administrateur, tout ça n'est plus inclus. Ensuite, la question, c'était de savoir si on pouvait publier des données supplémentaires si les gens le choisissaient. Donc, pour nous, c'est oui. Les titulaires de noms de domaine qui souhaitent fournir davantage d'informations pourront le faire, ce sera possible. Et enfin, comment est-ce que les parties qui ont une utilisation légitime des données qui ne sont pas dans le public, dans le WHOIS non public, peuvent y accéder? Donc, l'autocertification, c'était la question. Est-ce que les parties pouvaient certifier qu'ils avaient le droit d'accéder? Si, par exemple, il y a un titulaire qui doit le déterminer et permettre un accès rapide. Alors, si on a regardé dans les détails, on s'est dit que le besoin de contacter le titulaire était nécessaire, donc pour une certification rapide, et un email anonymisé, un formulaire web permettrait de résoudre la plupart de ces problèmes. Donc, une auto-certification, pour nous, à notre avis, n'est pas conforme à la loi. Par rapport au programme d'accréditation, beaucoup d'entre vous avaient entendu parler dans un certain nombre d'appels et de discussions un aspect très important au modèle d'accréditation. C'est donc de savoir comment est-ce qu'on montre que les parties qui ont un objectif légitime pour accéder au WHOIS non public sont vraiment légitimes. Donc il y a un modèle d'accréditation. Nous sommes en communication avec le GAC là-dessus, surtout par rapport à deux catégories de certification. Premièrement, les agences d'application de la loi, les autorités gouvernementales, donc l'accès de ces entités. Pour nous, le GAC est un point de collecte qui est tout à fait adéquat, donc à savoir quelles sont les données qui devraient être accessibles pour ces entités-là. Pour ce qui est non gouvernemental, donc l'autre catégorie, tout ce qui est anti-abus, lutte contre les abus, la propriété intellectuelle, la protection des marques de commerce. Donc là, on pourrait créer un code de conduite, codifié, certifié pour avoir accès aux informations. Donc une fois qu'on a les informations, ce qu'on doit en faire, et évidemment les questions de responsabilité pour une utilisation légitime. Ensuite, diapositive suivante. Nouvel intervenant. Merci Yoran et JJ. Donc c'est tout à fait utile d'avoir cette présentation générale. Et donc vous avez là en fait le concept visuel sur l'écran qui a été approuvé d'une manière générale pour l'ICANN. Nous avons donc mis tout ceci à l'écran pour que vous puissiez avoir une vision de l'idée. Donc, à gauche, vous avez ce qui se passe actuellement entre les différentes entités qui, en fait, restent inchangées dans ce modèle proposé. Maintenant, les changements sont à droite du diagramme. Donc, l'affichage public des données du titulaire et ce qui est non public. Et ce que font les gouvernements et les entités non gouvernementales pour avoir accès à certaines données. Donc, le premier principe est le suivant. ICANN.org doit identifier l'équilibre adéquat pour qu'on soit conforme au RGPD tout en conservant le WHOIS existant autant que possible. Donc, c'est assez vague, en fait. C'est un principe que nous avons gardé à l'esprit. Nous avons invité des membres à analyser si ce principe avait été respecté pour voir quels étaient les besoins du GAC et pour penser au processus. Et donc, nous allons demander à chacun de nos intervenants d'intervenir là-dessus pendant 6 minutes. Donc, nous avons d'abord Nominette qui va représenter les opérateurs de registre. Il s'agit de Nick Wenden-Smith. Nico Micro, merci. Bonjour à tous. J'aimerais remercier la communauté des entreprises ainsi que le GAC de m'avoir invité à parler ce matin sur cette question très importante pendant cette séance intercommunautaire. Encore une fois, comme lors de la dernière séance à Abu Dhabi, je dois clarifier que je représente le groupe des entités des opérateurs de registre. Je ne parle pas au nom de tous les opérateurs de registre parce que je représente Nominette. Donc, nous sommes CCTLD pour le point UK. Donc, nous faisons partie de l'Union européenne, en tout cas pour l'instant. Donc, nous connaissons bien le régime de protection des données actuel que nous avons, mais nous avons également des GTLD auxquels nous fournissons des services. Et donc, c'est là qu'est notre intérêt dans tout ceci. Alors, merci beaucoup pour cette présentation générale de ce modèle provisoire. J'ai simplement 4 points à détailler. Premièrement, merci beaucoup. En fait, 4 mots, 3 en français. Merci vraiment beaucoup. 2 mots. Donc, de toute évidence, il y a des détails très importants qu'il reste à analyser. Mais nous pensons que ce modèle provisoire, tel qu'il existe actuellement, est une étape, un pas en avant positif. Et je dois souligner également qu'il y a des normes mondiales de protection des données. Donc, cela veut dire que le RGPD permet ceci au niveau international. Parce qu'actuellement, il n'y a absolument aucune protection. Et donc, une réforme de ce principe de base était nécessaire. Donc, pour nous, ce modèle est intéressant. Le fait d'avoir le choix, le fait que les opérateurs de registre peuvent appliquer cette politique au niveau international, quel que soit le titulaire de nom de domaine, qu'ils ont cette option. Ce n'est pas obligatoire pour nous de distinguer entre les différents titulaires à l'avenir. Et pour nous, c'est important. Cela veut dire qu'il y a une base pour un modèle qui peut être implémenté et qui sera conforme. Donc, merci pour ça. En ce qui concerne l'analyse GAC par rapport à ce qu'il faut encore faire, ce qui est nécessaire pour l'avenir, du point de vue de notre opérateur de registre, la publication continue de notre système a un chevauchement de plus de 60% avec les noms de titulaires. Et donc, moins de 60% de nos enregistrements sont des enregistrements d'entreprise. Donc, il y a un risque de fuite de données lorsqu'on publie le .org, le champ .org. Donc, ça, c'est le risque pour nous à l'avenir. Et nous espérons que ceci sera pris en considération avant la publication du modèle définitif.
Deuxièmement, par rapport à la question des emails, je dois dire que les opérateurs de registre UK n'ont pas publié d'adresse mail dans le quiz depuis des années. Pour nous, ça n'est pas un problème. Nous recevons entre 10 requêtes de diffusion de données chaque mois, par rapport à 12 millions de domaines. Donc, ça n'est pas quelque chose qui est nécessaire pour que ce modèle avance. Bien entendu, on propose un modèle de mail anonymisé, mais étant donné qu'on a peu de temps maintenant pour mettre en œuvre ce règlement, je pense que c'est plus une distraction qu'autre chose. Et moi, je l'abandonnerai tout simplement. Ce n'est pas mentionné ici, sur cette diapo, mais dans le texte du modèle, il est question d'inclusion d'accords de traitement de données entre l'ICANN et les parties contractantes, y compris les opérateurs de registre. Et bien entendu, il y a des milliers d'opérateurs de registre de ce type dans le monde. Donc, c'est une partie essentielle de la conformité du RGPD, étant donné le peu de temps qu'il nous reste pour la mise en œuvre, à savoir 7 semaines. Il faut donner des notifications et nous devons absolument proposer des clauses. Pas du jour au lendemain, mais c'est urgent. Et j'en viens à mon dernier point. Je sais qu'on a peu de temps, mais j'aimerais insister sur un point en particulier parce qu'il est important pour nous et il concerne le système d'accès aux quiz non public qui va être développé. Nous pensons qu'il y a ici toute une série de questions de principe en termes d'accès par rapport au contact des gens et des organisations qui doivent être contactés et que là, il faut prendre des décisions. Quelles que soient vos idées par rapport à d'autres alternatives, par rapport à des politiques de diffusion de données responsables, on n'a pas encore entendu d'explication par rapport à la manière dont cette approche est compatible avec les points de limite du RGPD proposé. Ensuite, deuxième point en termes pratiques. Bien entendu, ça ne va pas être mis en place en mai. Ça, c'est un fait admis maintenant. Donc, tout dernier point, je vous l'assure. En termes de diffusion de données, les opérateurs de registre sont un peu isolés, se sentent seuls. Et on a nos propres politiques en termes de diffusion de données par rapport à une quelconque proposition concrète. Donc, face à ce vide, il faut voir ce qu'on doit faire pour que les parties légitimes aient accès aux données. Parce qu'on essaie d'avancer. Et bien entendu, la confiance et la coopération avec les autorités chargées de l'application de la loi et la protection des droits, c'est une priorité pour nous. Ça continue de l'être et nous allons continuer à collaborer là-dessus. Nouvel intervenant au micro, merci beaucoup. Et on va passer à Thomas Rickert. Comme vous le savez, Thomas s'y connaît très bien en RGPD, il est allemand. Et pour Einstein, l'imagination est plus importante que la connaissance. Mais on va voir ce que nous dit Thomas. Thomas au micro. Merci Steve. Tout d'abord, je suis très heureux que vous mentionniez le nom d'Albert Einstein aux côtés du mien. Je me sens très honoré. Alors, j'aimerais saluer Likan qui a publié un livre de recettes. Un livre de recettes . Donc, merci à Likan de cette récente publication, ce livre de recettes qui contient beaucoup plus d'améliorations qu'escomptées. Donc, Likan s'engage de manière beaucoup plus active aux côtés de la communauté par rapport aux derniers mois. Et bien entendu, il y a un chevauchement par rapport à ce que Nick a dit. Donc, je vais mettre en exergue certains des aspects les plus positifs de ce livre de recettes et de ce modèle intérimaire. D'abord, la possibilité pour les parties contractantes d'être en conformité avec ce règlement général sur la protection des données au niveau international. Ensuite, pas besoin de faire une distinction entre personnes physiques et juridiques, parce que comme vous le savez, ou peut-être que certains d'entre vous non, le nom des entités juridiques peut être de type données personnelles si les données personnelles autorisent une identification d'un individu. Donc, le nom des actionnaires, des fondateurs de l'entreprise, etc., sont dans le nom de la compagnie. Donc, il y a un risque de diffusion de données personnelles. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Ensuite, la publication limitée du titulaire de nom de domaine et de ses données personnelles. Ça, c'est une excellente nouvelle aussi. Ensuite, le fait que la publication de l'adresse mail, le téléphone, le fax n'est plus nécessaire, mais ça doit être remplacé par la contactabilité. Ça veut dire une adresse mail anonymisée. Ça aussi, c'est une excellente nouvelle. On en a parlé avec les parties contractantes qui ont souhaité s'approprier de cette question lorsque elles souhaitaient contacter le titulaire de nom de domaine. Donc, ce sont elles qui ont fait cette proposition. De plus, nous aimerions saluer Likan qui a reconnu des difficultés liées au système d'auto-identification pour l'accès sécurisé. Cela étant dit, il y a encore bien des domaines dans ce livre des recettes où on attend des informations supplémentaires et qui ont besoin d'être discutées plus avant. Par exemple, la collecte de données du WHOIS détaillé doit être nécessaire sans avoir à avoir une explication supplémentaire ou une justification juridique. Donc, on a besoin de plus d'informations par rapport au fait de savoir pourquoi l'ICANN pense que la collecte de ces éléments de données est nécessaire. Il en va de même pour le transfert des données entre le titulaire de nom de données et l'opérateur de registre. On attend là encore une justification juridique à cela. Par rapport au respect de la période de rétention pour la durée de l'enregistrement plus de 2 ans, là encore, on ne sait pas pourquoi c'est exigé et on attend encore une fois des informations là-dessus. Mais je pense que le point le plus important, c'est le système d'accès sécurisé que propose l'ICANN et le rôle du Conseil consultatif gouvernemental, le GAC. Et nous sommes un peu préoccupés que le fait de demander au GAC et au gouvernement de nous aider à mettre tout ce système en fonctionnement va redéfinir le rôle du GAC, qui, conformément à nos statuts, a un rôle exclusivement consultatif. Et comme vous le savez, le GAC ainsi que la Commission européenne a envoyé des courriers à l'ICANN en demandant à ce qu'il ne soit pas refusé cet accès sécurisé. Toutefois, on nous a demandé d'être totalement en conformité avec la législation applicable. Donc je pense qu'il est tout à fait pertinent de demander au gouvernement et au GAC d'offrir une orientation juridique par rapport au fait de savoir comment appliquer cela d'un point de vue juridique. Mais le fait de rendre opérationnel un système d'accès sécurisé, ça, c'est quelque chose qui doit être effectué par l'ICANN et la communauté. Bon, je pense que j'en ai fini, un petit peu en avance d'ailleurs, donc j'espère que nous aurons le temps par la suite d'en débattre. Donc, en gros, nous attendons plus d'informations, des informations qui permettent aux parties contractées d'évaluer d'un point de vue juridique les propositions faites par l'ICANN. Steve Del Bianco, merci. Nous allons entendre maintenant Catherine Albus de la Commission européenne, mais j'aimerais vous réitérer que les questions formulées par Thomas et d'autres sont partiellement reflétées dans ce livre de recettes dont on a parlé. La section 5 en particulier qui reprend les discussions, les commentaires au sein de la communauté pour voir si nous avons fait un bon travail. Et on espère que les APD vont pouvoir répondre à cela. Sur ce, j'aimerais céder maintenant la parole à Catherine. Catherine au micro, merci beaucoup et merci Thomas qui a déjà mis le doigt sur certains des points liés au rôle du GAC. Moi aussi, j'aimerais en parler, mais d'abord, j'aimerais prendre une petite minute pour vous expliquer pourquoi c'est si important pour le GAC et pour nous tous. Parce que ça nous renvoie à un principe de base. Les gens s'attendent à ce que l'Internet soit un lieu sûr et sécurisé et s'assurer qu'il y ait un niveau de sécurité optimal par rapport à la responsabilité. Alors nous sommes très centrés sur cet aspect-là des choses, ainsi que la Commission européenne et l'Union européenne. Et la position de la Commission européenne continue de refléter le point de vue de 28 États membres, encore à ce jour. Et l'Union européenne et le GAC ont insisté sur le fait que l'ICANN doit faire en sorte que WHOIS soit en conformité avec cet engagement et avec la législation en vigueur. Donc, merci beaucoup à l'ICANN qui a élaboré ce livre de recettes. Comme vous le savez, l'Internet est une ressource publique qui est gouvernée par toute une série d'accords privés qui remplace un système qui serait autrement créé par des législations internationales, ce qui implique un certain nombre d'éléments et d'intérêts d'ordre public. Maintenant, la mission de l'ICANN va au-delà d'une simple fonction technique. Donc, il y a un contrat entre des parties privées qui servent l'intérêt de ces parties, tout en ayant l'obligation de servir d'autres intérêts publics, dont le besoin d'avoir un niveau minimum de responsabilité en ligne. Ce qui ne veut pas dire que il est question de conformité vis-à-vis de la loi. Le RGPD prévoit un certain nombre de mécanismes par rapport à la manière dont les intérêts privés peuvent être pris en considération en utilisant les mécanismes fournis par le RGPD, et il en a déjà été question. Et comme cela a déjà été dit dans la position de l'Union européenne, le RGPD n'empêche pas la publication ou n'interdit pas la publication des données personnelles. Maintenant, le GAC a identifié un certain nombre d'aspects positifs dans ce projet intérimaire ou modèle intérimaire. D'abord, un objectif clair d'identifier les objectifs pour le traitement des données WHOIS dans la collecte de données et reconnaît le rôle fondamental que le GAC joue à ce niveau-là. Et je voulais signaler deux points, à savoir le modèle intérimaire ne semble pas encore atteindre les objectifs fixés par le GAC et j'aimerais vous encourager à lire tous les commentaires formulés par le GAC sur ce point. Tout d'abord, comme Thomas l'a déjà signalé, il y a encore une explication qui manque par rapport à la publication ou non-publication de plusieurs éléments, y compris le nom du titulaire de domaine et l'adresse mail. On a reconnu aussi que tout ne pouvait pas être public, mais on ne comprend pas encore pourquoi ce choix a été effectué par l'ICANN. Ce qui implique qu'on a besoin de plus de détails, parce qu'il faut une évaluation du besoin et de la proportionnalité des processus de données par rapport à l'objectif légitime poursuivi. Donc il faut encore continuer à discuter avec les APD européennes. Ensuite, par rapport au modèle d'accréditation lui-même, là encore, c'est un élément clé parce que cela va permettre de déterminer la manière dont chacun aura accès à ces données non publiques. Mais malheureusement, c'est la partie la plus sombre encore de ce tableau. D'abord, il va nous savoir une solution à court terme, parce que je suis sûre que tout le monde dans cette salle qui n'aura pas d'accréditation à proprement parler n'aura pas accès à ces données d'ici la fin mai. Ensuite, on a besoin d'une solution temporaire, sinon on n'aura pas d'accès. Donc, il faut qu'il y ait des procédures harmonisées avec un objectif bien clair pour tous. Ensuite, à long terme, on va devoir concevoir un système et le fait que le GAC a un rôle essentiel à jouer ici a été reconnu. Toutefois, comme cela a déjà été dit, le GAC est un organe consultatif et ne peut pas jouer un rôle opérationnel. Donc, le GAC salue l'opportunité qui lui est donnée de donner des orientations sur le mécanisme d'accréditation et sur les codes de conduite, s'ils sont adoptés, à formuler. Mais le GAC va continuer à parler de son rôle à l'avenir, dans les prochaines journées. Je vous invite d'ailleurs à participer à ces discussions. Donc, en résumé, je pense qu'on a fait un certain nombre de pas en avant. Mais il y a encore un certain nombre de domaines où ce modèle intérimaire mérite encore plus de travail. Le GAC a fourni des orientations détaillées et continuera à coopérer. Merci encore à l'ICANN pour les efforts faits pour coordonner les différents points de vue exprimés par le GAC jusqu'à présent. Et nous attendons avec impatience de pouvoir continuer à travailler sur le modèle pour continuer à avancer dans ce modèle. Steve Del Bianco, merci beaucoup. Je sais qu'il y a eu plusieurs lacunes. D'abord, manque d'explications pour cacher l'adresse mail du titulaire de données. Et ensuite, que faire lorsque vous attendez un modèle d'accréditation pour l'accès sécurisé? Je vais maintenant donner la parole à deux nouveaux intervenants, l'un spécialisé dans la sécurité cybernétique, la protection des consommateurs et la protection des marques déposées. Patrick, pour commencer. Patrick au micro, Patrick Charlie. Merci Steve. Oui, on va parler un petit peu de la raison pour laquelle l'accès à certaines données des WHOIS est extrêmement importante. Et je vais essayer de vous l'expliquer au travers de l'utilisation de ces données. Ensuite, je vais brièvement parler d'éléments de ce modèle intérimaire de l'ICANN et ce qu'on y trouve. Moi, je travaille à la Fédération d'enregistrement. On a des opérations qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui contrôlent ce qui se passe en ligne. En 2016, pardon, il y a eu 19,2 millions d'URL ou d'utilisation malveillante d'URL. Et l'aspect le plus important, c'est celui de l'adresse mail du titulaire de nom de domaine. On l'utilise d'abord pour le fait de pouvoir entrer en contact. Vous savez que conformément au DMCA, il y a une législation équivalente qui existe dans le monde pour envoyer des notifications à certains sites, afin de mettre en exergue le fait que le site à connaissance de cette infraction. Cela a été dit auparavant. Peut-être qu'un système de relais ne serait même pas nécessaire avec ce modèle. Ce qui pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut protéger le droit de nos utilisateurs si on ne peut pas contacter ces personnes. Et ça, c'est réellement complexe. Ensuite, par rapport aux enquêtes, ce qu'on découvre très souvent, c'est qu'un opérateur d'un site frauduleux a d'autres sites aussi qui se livrent à des activités criminelles. Et on a besoin de l'adresse mail de cet opérateur. Ensuite, il faut prendre des mesures par rapport à cela. Donc, l'adresse mail est de fait absolument indispensable. Et s'agissant de, par rapport aux fuites, par exemple, de diffuser ou de fuiter des morceaux musicaux avant leur publication, c'est particulièrement important. Donc, je vous en parlais d'abord, infraction IP, sécurité du consommateur. Il faut préserver la, l'identité des consommateurs. Et on sait que dans la ville de Londres, la police a observé une augmentation du nombre d'infractions de l'identité individuelle des personnes. Également, infraction en termes de piratage de courriel à des fins de hameçonnage. Donc, c'est pourquoi il est important que ce genre d'informations soit rendu public et c'est important pour notre partie prenante. Donc, je sais que d'autres organisations dans le monde sont du même avis et je vous encourage à regarder un mail envoyé par la coalition de plus de 60 organisations chargées de la protection des enfants et de la protection de la propriété intellectuelle qui a été envoyé aux APD et d'autres. Donc, par rapport au modèle lui-même, ce qui nous préoccupe d'abord, c'est que l'ICANN a répété une fois et encore son intention de coller autant que possible au modèle existant de WHOIS. Et ce qu'on voit, c'est que ce modèle n'est pas à la hauteur. Ce modèle, pour nous, est un outil qui n'arrive pas à être en conformité avec le RGPD par rapport à la manière dont la frontière entre personnes juridiques et physiques, en dépit du fait que le RGPD dit qu'il faut appliquer ce règlement au niveau international.
Donc c'est très intense, tout évident, c'est l'intérêt public et nous ne voyons pas de preuves dans les documents qui soutiennent la proposition de l'ICANN. Pour nous, les choses ne sont pas claires par rapport à ça. Il n'est pas possible de publier les adresses e-mail dans le registre, dans le WHOIS public. Et ça, c'est en dépit du groupe de travail article 29, qui a souligné le fait qu'il n'y a pas d'interdiction de la publication des données, mais que l'analyse doit être effectuée correctement. Nous n'avons tout simplement pas de preuves que ceci se soit passé. Nous pensons qu'il est absolument qu'il faut absolument considérer ceci. Nous espérons que la proposition le fera et nous pensons qu'avoir un point d'accès dans la publication des adresses e-mail, dans l'intérêt des utilisateurs. Nous espérons donc que l'analyse adéquate se présentera ou sera effectuée. Alors, où en sommes-nous pour le futur? Nous savons bien qu'un processus d'accréditation doit être mis en place. Ce que nous ne comprenons pas, c'est quand et par qui. Nous savons que le GAC doit être impliqué. Nous ne savons pas si cet enjeu a été accepté et Catherine y a fait allusion. Donc, où est-ce qu'on va en être lorsque le modèle sera mis en application, mis en œuvre? Est-ce qu'on va se trouver dans une situation très sombre parce qu'il n'y a pas de mode d'accès, dans une situation, dans un néant? Et si c'est le cas, est-ce que les gens comprennent bien à quel point cela sera nocif pour l'intérêt public? Et Tim en parlera dans davantage de détails. Donc, la question que nous nous posons, c'est est-ce que l'auto-certification sera acceptable pendant la période intérimaire? Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut un système d'accréditation assez rapidement. Et j'aimerais résumer pour vous dire que les membres de l'IPC et de l'unité constitutive des parties commerciales sont en train de travailler à un modèle d'accréditation actuellement que nous devrions communiquer rapidement à la communauté. Et nous espérons réellement que notre point de vue sur l'accréditation sera pris en compte de manière sérieuse, parce que nous n'avons pas été considérés de manière adéquate jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, nouvel intervenant. Merci. Vous nous avez dit tout à l'heure, Patrick, que le modèle provisoire avait été envoyé aux APD. Alors, ce qu'on espère, c'est que les APD nous diront si, oui ou non, elles pensent que le modèle intérimaire est conforme. Mais je crois que ce que vous avez soulevé comme question, c'est un petit peu différent. Nous sommes d'accord pour accepter les lignes directrices des APD, à savoir si l'ICANN est allé trop loin. Par exemple, sortir les adresses e-mail et faire des recommandations sur la base de ce modèle. Je crois que tous, nous espérons que les APD seront très clairs par rapport aux problèmes et par rapport au fait que peut-être nous sommes allés trop loin. Alors maintenant, on va aller au PDG de Domain Tools, qui est membre de l'unité constitutive des entités commerciales. Tim Chan. Tim au micro. Merci Steve de m'avoir invité à vous faire part de mon point de vue. Quand je regarde un petit peu les personnes qui sont à côté de moi, c'est ce qu'a dit le mari d'Elizabeth Taylor lors de sa soirée, du soir de son mariage. Je sais ce qu'il faut que je fasse pour que les choses soient intéressantes. Donc je vais faire de mon mieux. Le sujet est très sérieux, donc en termes de contexte, il y a des outils de recherche qui ont été mis en place. Et ça fait 20 ans qu'on travaille aux données du Ruiz. Et donc parmi nos clients, nous avons 500 organisations dans le monde entier qui, pour la plupart d'entre elles, sont extrêmement sont de grandes organisations qui soutiennent le gouvernement. Nous avons plus de 100 clients dans l'Union européenne. Donc, je vais faire de mon mieux pour représenter les intérêts de ces entités ainsi que les intérêts de l'ABC. Alors, Patrick a mentionné tout à l'heure quelque chose que j'aimerais mentionner également, c'est la protection des consommateurs. Parfois, on ne pense pas à ça dans le domaine des consommateurs et par rapport aux données du Ruiz. Mais donc, les données du Ruiz sont utilisées tous les jours. Elles font partie du tissu de sécurité qui se passe. C'est un petit peu le dernier kilomètre de l'Internet. C'est un petit peu la question des systèmes de réputation des domaines, le blocage des emails, ou plutôt le trafic des emails en bloc. Donc, c'est pour vous protéger, vous et moi, qui sommes ici, les gens avec qui nous travaillons, nos familles, le travail qui est effectué au jour le jour dans le domaine de la sécurité, a un impact sur nous tous qui sommes connectés à l'Internet. Et il y a donc d'autres unités constitutives qui sont représentées ici également et qui en sont conscientes. Donc, en tant que membre de l'ABC, pour nous, la protection des consommateurs est extrêmement importante. Et donc, nous travaillons dans le même sens que ce qui a été effectué dans le RGPD. L'idée, c'est vraiment d'équilibrer les différents intérêts, les différents enjeux. Yoran en a parlé et nous sommes la voix des entités commerciales, certes, mais j'encourage toutes les personnes qui sont présentes dans la salle à s'impliquer dans la conversation. Alors, en ce qui concerne le modèle en lui-même, on m'a demandé donc d'en parler. Patrick a donné un certain nombre de détails sur les adresses e-mail, donc je ne vais pas en dire davantage. Il y a une suggestion de Microsoft qui parle de l'utilisation des adresses e-mail et de leur importance. Donc, par rapport à notre base d'utilisateurs, on a fait un questionnaire par rapport à ce qui était plus utile, donc l'opérationnalisation et les adresses des titulaires et le Ruiz, c'était vraiment le numéro un. Donc, dans un esprit de compromis, nous arrivons dans la discussion et nous essayons d'équilibrer les intérêts. Et j'espère que c'est un champ dans lequel l'inclusion est importante. C'est un champ unique. Il est très important d'associer les identificateurs uniques aux ressources dans le domaine. Et donc, tout ceci est disponible actuellement. Donc, s'il y a vraiment un domaine dans lequel on souhaite voir du travail, pour nous, comme Patrick en a déjà parlé, c'est vraiment le domaine des adresses e-mail. Deuxième point. Donc, vraiment s'assurer que tous ceux qui travaillent dans la sécurité sont inclus dans le système d'accès sécurisé, on en a déjà parlé. Donc, il y a des choses sur lesquelles on doit se mettre d'accord. Il faut qu'il y ait davantage de détails par rapport au processus d'accréditation. Et en dehors des agences d'application de la loi, comment est-ce que les gens pourront avoir le soutien de la communauté pour obtenir l'accès? Toute interruption, même une journée d'interruption, donc... tout ceci, vraiment, est un problème en matière de service pour nous. Donc, il faut absolument que l'on progresse là-dessus par rapport à ce modèle. Ce qui me préoccupe, c'est qu'il n'y a pas de solution pour valider les personnes qui ont un accès légitime à ces données, qui devraient avoir accès à ces données. Donc, encore une fois, je fais référence à la publication qui est faite par des personnes. Donc, il y a deux jours, il y a des gens... Global Messaging and Malware, donc un groupe de travail qui s'occupe des logiciels dangereux, qui parlait de la sécurité et du trafic web, des trafics d'email. Et donc, eux, ils ont une déclaration très courte sur les questions de sécurité dans la communauté. Alors, c'est une des premières fois que la communauté de la sécurité en tant qu'organisation a publié un commentaire sur le processus. Et donc, il vaudrait mieux le lire du point de vue de cette organisation. Ce n'est pas à moi de vous le dire, mais je pense que leur approche est tout à fait équilibrée. Donc, il est publié sur le site de l'ICANN. Cette déclaration est publiée. Alors, dernier sujet, j'aimerais d'ailleurs lancer la discussion là-dessus. C'est un sujet qui, à mon avis, n'a pas encore été détaillé de manière très claire dans le processus, pour l'instant en tout cas. Donc, en domaine de données HUIS, ce qu'il faut faire, c'est rechercher dans les ensembles de données. Donc, la possibilité de rechercher entre différents ensembles de données. C'est très important du point de vue de la sécurité pour les investigations individuelles sur les activités dans le réseau et de manière proactive. Donc, tout ce qui est enquête sur des attaques sur le réseau. Et donc, la raison pour laquelle... il y a donc des bases de données, c'est parce que en fait nous avons construit ces bases de données. Donc il existe un WHOIS dans lequel on peut chercher des informations, mais il y a un nombre limité et donc ce n'est pas quelque chose qui existe pour les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registre. Donc, nous l'avons fait, nous, mais c'est critique en matière de sécurité parce que ça permet de désactiver ou activer grâce au processus. Donc, il y a un certain nombre de domaines de données qui sont disponibles de manière publique avec le port 43. Si le résultat, c'est qu'il n'y a pas d'accès, eh bien, cela veut dire que cette fonction disparaît. Donc, ce que j'espère, c'est que si ce n'est pas nous, eh bien, peut-être que les bureaux d'enregistrement, par le biais de l'ICANN, pourront effectuer ce type de choses, faire les recherches pour avoir accès aux données, parce que c'est critique. Merci. Steve, au micro. Et effectivement, il est intéressant de voir que vos perspectives ont été complètement différentes. Vous avez beaucoup plus de programmateurs et de scientifiques, vous avez moins d'avocats. Et effectivement, l'accès port 43 est utilisé pour les requêtes, à d'autres fins. Et donc, voilà pourquoi nous avons le port 43 en italique, au centre de la diapositive, pour voir un petit peu comment clarifier les choses, pour voir si nous pouvons l'entretenir après l'utilisation du modèle, avec le modèle. Donc, cela concerne l'accès sécurisé et l'accès public des données. Ensuite, nous avons Stéphanie Parenne, qui représente l'entité des utilisateurs non commerciaux. Stéphanie, au micro. Merci beaucoup de m'avoir invitée à prendre la parole. Donc, le groupe des entités non commerciales représente les utilisateurs finaux. Nous avons publié une réponse préliminaire au livre de recettes hier et vous trouverez cette réponse sur notre wiki. Je serai très heureuse de vous faire venir davantage de détails si vous le souhaitez. C'est vraiment un grand honneur pour moi d'être ici, mais je me sens un peu coupable parce qu'il faudrait qu'il y ait un commissaire aux données qui soit présent. Alors, excusez-moi, je travaillais avec ce commissaire sur les questions de vie privée au Canada et je regarde Kathy Klein de la NCUC, je vois qu'elle m'a invitée quand j'étais dans ce bureau en 2005 lors de la réunion sur la protection de la vie privée. Les faits et l'interprétation n'ont pas changé. Ce que nous avons actuellement, c'est des amendes de 4%. Donc, en matière d'avis par rapport à notre point de vue, il y a eu un papier qui a été publié vendredi et qui rentre dans le détail par rapport au point de vue des commissaires au niveau mondial. Donc, il serait en fait très cynique si l'ICANN encourageait uniquement la conformité au RGPD et si c'était optionnel pour les autres citoyens. Donc, quoi qu'il en soit, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que la NCSG vraiment travaille avec acharnement à trouver des solutions et l'idée de l'accès par couche, et je vais d'ailleurs en parler, parce que, franchement, Thomas et moi, on est d'accord sur la plupart des points. Et donc, je vous encourage à lire le guide d'écho. C'est vraiment un excellent travail. Tout ce qu'il a dit, c'était parfait. Je suis d'accord. Donc, je vais passer à ce qui, pour moi, n'est pas extraordinaire. Maintenant, je suis d'accord donc avec Thomas, juste pour clarifier. Mais l'accès par couche, c'est vraiment très complexe. Nous ne pensons pas que l'auto-accréditation est un modèle qui fonctionnera. Ça dépendra de vos avocats, ils pourront vous expliquer. Mais à mon avis, c'est de la folie de considérer cette option de l'auto-accréditation. Pour certains d'entre nous, nous travaillons au concept des normes internationales, peut-être ISO, mais nous sommes ouverts. S'il y a d'autres approches qui sont suggérées, nous souhaiterions avoir un atelier à Barcelone pour parler de ceci. Il existe déjà des normes ISO pour les certifications de sites web, par exemple. Ce n'est pas très compliqué. Les normes, ça prend du temps, c'est toujours le cas, mais c'est vraiment ce que doit faire l'ICANN en termes de redevabilité, de responsabilité. Alors, il y a un autre projet que je n'ai pas nécessairement à parler, dont je n'ai pas nécessairement parlé à beaucoup de personnes, mais c'est la norme COSO. Et donc, par rapport à l'accès par couche, je crois qu'il faut aussi parler du statut sur les droits de l'homme et l'appliquer à ceci. Donc, évaluation de l'impact sur les droits de l'homme. Il est absolument important d'inclure ceci. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est la liberté d'expression, la protection des peuples et des personnes qui sont dissidents politiques et qui souhaitent s'exprimer librement. Et c'est ça, pour nous, l'important. Ce n'est pas uniquement la question de protéger les données, les noms, les numéros de téléphone, les adresses e-mail. C'est exposer les gens à la violence. C'est quelque chose qui existe. Nous avons les données là-dessus, donc il faut se poser cette question. Il est absolument important que les droits de l'homme deviennent réels, soient mis en application, c'est ce que mesure COSO. Et donc, je demande à l'administration de l'ICANN d'y penser de manière très sérieuse et d'utiliser ces différents outils de mesure. Donc, ceci vraiment nous préoccupe énormément. Je vais maintenant passer à d'autres éléments. Nous n'avons pas été d'accord sur la poursuite des données détaillées. Pour nous, il faudrait se focaliser sur la limitation des données. Ceci est reconnu dans le monde entier, au niveau international, c'est un principe clé. Mais il y a également le guide du Conseil de l'Europe qui a été publié dans le contexte de la Convention 108. Ils ont pris le temps de se concentrer sur les procédures de l'ICANN, sur les politiques. Donc, s'il vous plaît, il faut absolument respecter le travail qui a été fait dans le domaine de la protection des données et dans la communauté. Alors, maintenant, passons à la suite. Nous sommes d'accord sur l'anonymisation. Et même si je comprends que lorsqu'on lutte contre la cybercriminalité, on a besoin des données, mais les chercheurs dans le domaine de la santé également. Et donc, les données anonymes, c'est important. Il y a des moyens de vous permettre de suivre, de faire le suivi que vous souhaitez sans que les adresses e-mail soient publiques. Quoi qu'il en soit, si effectivement vous éliminez ces sites plutôt que d'avoir une liste noire, eh bien, vous pouvez être accrédité conformément à la norme ISO. Donc, nous sommes tous pour le respect de la vie privée, mais nous souhaitons également être protégés. Il faut mettre des bâtons dans les roues de la cybercriminalité, n'est-ce pas? La question n'est pas que nous ne souhaitons pas protéger contre la criminalité, mais simplement les utilisateurs finaux ne doivent pas être mis en risque simplement pour que l'accès soit rapide et facile. Et en fait, c'est ce qui se passe depuis 25 ans, n'est-ce pas? Et il faut absolument que cela s'arrête. Alors, encore un point. Je regarde Alan parce qu'il est en train de me chronométrer. Donc, je pense que je suis déjà en retard. Oui, dernier point, s'il vous plaît. Dernier point. Alors, l'objectif du traitement. En matière de protection des données, l'objectif du traitement ne doit pas être dans l'intérêt public. On ne peut pas, il ne faut pas que les parties tierces aient accès aux données. Et c'est ça l'objectif du traitement des données, surtout lorsque... Et on en a déjà parlé, surtout que cela est à l'encontre de la loi. Est illégal. Donc, il faut absolument que ceci soit limité à la mission de l'ICANN et l'objectif du traitement doit être limité à la mission de l'ICANN. Steve au micro. Merci Stéphanie. Donc, Stéphanie a parlé de l'anonymisation des emails, ou plutôt... Oui, c'est ça. Il faudrait en fait que le titulaire ait le même email anonymisé partout. À ce moment-là, les corrélations seraient possibles. Mais si l'anonymisation correspond à un seul bureau d'enregistrement, il n'est pas possible de faire les corrélations dont a parlé Tim. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et enfin, nous avons Alan Greenberg, qui est président de l'Atlarge, du comité consultatif de l'Atlarge. Alan, c'est à vous. Alan Greenberg au micro, merci beaucoup. Alors, j'ai chronométré tout le monde, Stéphanie, il faut que vous le sachiez, hein? Ce n'est pas uniquement vous. Alors, personnellement, j'ai différents rôles. Je suis président du comité consultatif de l'ALAC, je suis également président de l'équipe de révision RDS WHOIS. Donc, je ne parle au nom de personne, ni l'un ni l'autre. L'équipe de révision, étant donné que nous sommes en phase, en fait, en début de travail, et l'ALAC, étant donné que nous avons déjà discuté de cette question, nous n'avons pas terminé, en fait. Nous venons de commencer la discussion là-dessus. Donc, même si dans un instant, je vous parlerai de certains des principes de l'ALAC, je ne parlerai pas des résultats.
L'ALAC représente les intérêts des utilisateurs de l'Internet au sein de l'ICANN. Et les chiffres sont controversés, mais on parle d'environ 4 milliards d'utilisateurs maintenant. Donc, il y a bien entendu les titulaires de noms de domaine, tout comme les utilisateurs. La question qui se pose, c'est comment établir un équilibre entre les intérêts des utilisateurs et des titulaires de noms de domaine lorsqu'ils ceux-ci diffèrent. Et en général, ils ont tendance à différer. Et si on a un équilibre entre 4 milliards et 100 millions, quel que soit le chiffre, on va pencher la balance en faveur des 4 milliards. Et là, bien entendu, ça crée une différence. Lorsque le modèle intérimaire actuel a été annoncé, je crois que le premier mot qui a décrit mes sentiments à l'époque, c'était que le soulagement. par rapport aux possibilités auxquelles je m'attendais. Ce n'était pas une satisfaction quelconque, mais plutôt un plus grand équilibre que ce à quoi s'attendaient les gens. Et là, je ne parle pas au nom de l'équipe de révision ni au nom de la LAC. C'est une opinion personnelle que j'exprime. Les politiques en termes de confidentialité ou de vie privée sont importantes. Mais s'assurer aussi qu'on a les outils nécessaires pour lutter contre la cybercriminalité, les infractions en termes de cybercriminalité, c'est tout aussi important. Et je ne vais pas rentrer dans le détail des adresses mail ou autres. Mais en dernier ressort, comme cela a été dit, si nous ne sommes pas en position, on va faire une liste noire de tout Whois pour les autorités chargées de l'application de la loi à court terme. Et pour les gens qui ne sont pas chargés de l'application de la loi et qui luttent contre la cybercriminalité, ça va également les concerner à un moment ou à un autre. Or, les premières, ou plutôt les personnes qui sont responsables de cette utilisation malveillante, sont très créatifs. Ils utilisent à chaque fois de nouvelles techniques. Et le monde évolue. Et on a réellement besoin que les outils à notre disposition règlent cela. En termes du modèle spécifique, j'ai été personnellement un peu déçue qu'il n'y ait pas au moins une tentative de reconnaître une personne juridique par rapport à une personne physique. Je comprends que si le nom de mon entreprise est alangreenberg.com, il y a là des informations personnelles, mais je comprends aussi que moi, si je suis à la tête d'une grande entreprise et je choisis une personne responsable des noms de domaine, j'utilise le nom personnel de cette personne pour l'adresse mail. Ça, c'est une diffusion de données personnelles, mais ça, c'est un problème qui se cantonne à cette entreprise donnée. Mais lorsqu'une personne juridique donne des informations personnelles dans le cadre des données de contact, ça ne relève pas du RGPD, mais c'est plutôt d'ordre privé. Malheureusement, l'ICANN n'a jamais fait de différence ou n'a jamais demandé au titulaire de nom de domaine de faire une différence entre une personne juridique et une personne physique. Et les bureaux d'enregistrement sont très souples à ce niveau-là. Donc, on a des problèmes réels. Enfin, la question de l'accréditation, du système d'accréditation. Ah non, excusez-moi, dit l'orateur, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Il y a très peu d'utilisateurs qui cherchent des noms dans Whois. Mais, comme cela a été dit, Whois est extrêmement utilisé, largement utilisé pour ce qui concerne les activités liées à la réputation des domaines. Si vous utilisez un navigateur normal, les informations utilisées sont celles de Whois pour voir si ce site est digne de confiance ou pas. Et vous allez voir un message apparaître qui va vous dire « Vous êtes sûr que vous voulez vous rendre sur ce site ?» Donc peut-être que vous n'utilisez pas Whois pour des questions liées à la confiance des consommateurs, mais l'infrastructure derrière vous le fait. Dans ce sens-là. Par rapport au modèle intérimaire, que se passe-t-il par rapport au système d'accréditation ? J'espère qu'on se montre qu'il y aura une certaine souplesse par rapport au comportement des commissaires et par rapport à la proposition des commissaires chargés des données. Steve Del Bianco, merci beaucoup. On a encore du temps pour les questions-réponses, mais j'aimerais rappeler à tout le monde que ça ne s'arrête pas ici. Souvenez-vous que le processus de l'ICANN est un modèle ascendant, fondé sur les politiques consensuelles. Donc, si on fait bien notre travail, les politiques que nous élaborons dans le PDP va remplacer ce modèle intérimaire. Ce qui est important, c'est de savoir ce que veut dire intérimaire. Est-ce que ça veut dire que c'est temporaire ? Non, ça ne va pas remplacer les activités de PDP. Et j'en mentionnerai trois. Le service d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire. Donc, il y a des mises à jour par rapport à la procédure de l'ICANN pour essayer de résoudre les conflits WHOIS par rapport aux législations locales. Les PDP relatives aux RDS, les RDS de prochaine génération dont Stéphanie a parlé. Donc, on a la responsabilité de mettre en œuvre ces politiques ascendantes. Cela fait des années qu'on se bat pour cela, mais il est peut-être temps de le faire. Je ne sais pas quelle est la date exacte. Vous verrez qu'il y a un point d'interrogation à côté de la date mai 2019. Oui. Au mois de mai, il y aura un Conseil européen de la protection des données. Et il y a toute une série de questions par rapport à la mise en œuvre du RGPD sur lesquelles nous sommes penchés avec toute la communauté. Donc, j'aimerais donner la possibilité aux membres du panel à répondre à ce qu'ont dit les autres et ensuite on va vous donner la parole dans la salle. Donc, qui veut commencer? Yoran, puis Thomas. Yoran Marby au micro. Merci. Alors, j'ai eu l'impression en écoutant ces présentations, c'est que le modèle qui est proposé ne plaît à personne, mais pour des raisons très différentes. Quelqu'un veut assumer mes fonctions? Alors, un certain nombre de commentaires. Je suis très heureux de voir que on dit tous la même chose ici, au panel et qu'on a besoin d'orientation par rapport au RGPD parce qu'on ne sait pas. On a d'excellentes relations avec eux, mais si ça doit être transmis une fois que la loi s'applique, on a besoin d'orientation. Donc il y a un grand risque de fragmentation du WHOIS parce qu'on ne va pas pouvoir appliquer nos contrats, ou plutôt notre capacité à le faire est réduite. Ensuite, on n'a jamais demandé au GAC d'être opérationnel. J'aimerais insister sur ce point. Souvenez-vous que l'alternative pour avoir un système d'accréditation, c'est d'avoir un processus en bonne et due forme. Donc, le monde change, il faut avoir quelque chose de différent. Donc, pensez à la manière dont on peut avoir accès aux informations pour de bonnes raisons. L'une des explications de ça, c'est les procédures de diligence ou le respect du droit. Moi, j'ai été entre les politiques décidées par la communauté et ce que d'après nous dit la loi. Donc, on a établi ce système. Et si quiconque a une proposition de système, n'hésitez pas à nous les présenter. Jusqu'à présent, on n'en a pas entendu. Parce que ce que l'on a entendu jusqu'à présent, ce qu'on a compris, c'est que les gouvernements se concentrent sur l'implication du gouvernement. Là, il ne s'agit pas du GAC. Donc, la première chose qu'on a proposée, c'est que les forces de police de par le monde, ça, c'est le pays qui le décide, envoient cela au GAC par notre intermédiaire. Donc c'est un mécanisme qui consiste à nous donner tout cela. Ensuite, deuxièmement, et je dois dire qu'on travaille beaucoup avec notre équipe OCTO et on essaie de voir comment le marché réagit. Nous, on n'a pas accès à ces données non plus. Si on n'a pas un système d'accréditation qui fonctionne. Donc, ça va avoir un impact sur notre capacité à travailler. Ensuite, la propriété intellectuelle. Notre intention, c'est que les gouvernements élabore un code de conduite par l'intermédiaire du GAC. Comment ils vont se comporter? Pourquoi? Pour donner aux parties contractantes une sorte de protection par rapport à ce qu'ils vont faire. Et ensuite, il faudra utiliser quelque chose comme ce que met en place l'OMPI, l'Organisation mondiale de la protection de la propriété intellectuelle. Peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais c'est en tout cas en fonction des connaissances dont on dispose actuellement. Si vous pensez que ce n'est pas nécessaire, si les APD pensent que c'est nécessaire, on va les suivre. Mais il faut de toute façon donner une proposition pour voir comment procéder. Et autre chose que j'aimerais dire, pour les gens, disons que nous avons un système pour ce qui concerne la sécurité, système lié à la sécurité sur Internet, et qu'une entreprise a accès à ces données. Ça doit être pour des objectifs bien délimités. Lorsque vous transférez ces données dans une autre base de données en dehors de la base de données WHOIS, par exemple pour examiner l'utilisation malveillante, vous devez appliquer le RGPD aussi. Je ne dirai pas, parce que mes avocats vont me taper sur les doigts, je ne dirai pas que dans une certaine mesure, le RGPD est un virus. Je ne l'ai pas dit, n'est-ce pas ? Steve Del Bianco, micro. Oui, la proposition de l'ICANN consiste à dire que les gouvernements passent une liste à l'ICANN par l'intermédiaire du GAC, que ce soit par un code de conduite développé par les gouvernements individuels, et ils pensent que le GAC pourrait être un organe de coordination pour passer par les entités qui pourraient certifier un code de conduite. Donc le GAC n'a rien à craindre à ce niveau-là. Thomas Reckert au micro. Merci beaucoup, Steve. Certains ici au panel ont eu peur qu'il y ait un abus de conformité par rapport à la publication de l'adresse mail. J'aimerais vous lire deux phrases d'un courrier envoyé par le président du groupe 29 en 2006. À la lumière du principe qu'on connaît tous, il est important de mettre en œuvre des méthodes qui servent les objectifs des données du WHOIS. Les objectifs de la base de données WHOIS peuvent servir de la même manière une approche par niveau telle que détaillée par les FSI afin de transmettre les informations aux autorités chargées de la loi, autorisées par la loi à avoir accès à ces informations. Donc cette première correspondance remonte à 2003. Donc je ne vois d'aucune manière comment le fait de publier une adresse mail peut être fait en conformité. Ensuite, plusieurs membres ici présents au panel ont parlé de l'importance de la base de données de WHOIS. Et nous l'apprécions, c'est une excellente source de données. Le problème, c'est que ça a été fourni de manière illégale pendant de nombreuses années. Et on doit mettre un terme à cela. Donc il faut trouver une manière de rendre les données accessibles de manière aussi simple que possible à ceux qui ont le droit d'avoir accès à ces données. Donc, je vais essayer de démystifier un petit peu ce que cette notion d'intérêt légitime veut dire. Ça, c'est inscrit dans l'article 6F du RGPD. Donc, il y a un intérêt du contrôleur, ce serait le bureau d'enregistrement ou opérateur d'enregistre, et un tiers, l'ICANN, une autorité chargée de l'application de la loi ou une marque. Mais dans ce cas, si vous dites qu'il faut un traitement des données, il faut un équilibre entre le droit du sujet des données et l'intérêt légitime de ceux qui prétendent avoir ce droit. Si l'on pense que tous ces intérêts légitimes sont plus importants par rapport au sujet de données et à leurs droits et à l'ensemble des données QIS. Ce qui n'est pas possible, mais en tout cas, il faut élaborer des arguments très vigoureux pour justifier que vous pensez que c'est possible. Dernier commentaire très rapidement, Steve. Vous avez dit qu'il s'agit d'une activité intérimaire, il s'agit d'une activité de conformité dont on parle maintenant, et il faut approfondir le processus de la communauté parce que l'ICANN est légitime parce que nous avons un processus fondé sur le consensus au sein de la communauté. Steve Delbianco, micro. Dernière réaction de la part de Patrick Charlie. Ensuite, on va donner la parole dans la salle et on a un certain nombre de questions sur le chat de Adobe Connect. Donc, Charlie, le livre de recettes parle de transfert de données groupées. Or, il n'y en a pas. Il y a un accès automatique à 3 requêtes. Une fois que ces requêtes sont obtenues, elles peuvent être stockées et analysées. Mais il n'y a pas d'anticipation de transfert de données groupées en masse. Donc, Patrick, c'est à vous. Patrick, au micro. Merci. Oui, Thomas, je pense que vous avez mis le doigt sur des aspects importants par rapport à la manière dont vous procédez à cette analyse. Donc, pour revenir à une déclaration faite en 2006, l'exemple que vous avez donné du courrier qui date de 2006, ça ne nous amène nulle part finalement. Ce qu'on sait, c'est que dans les 12 années qui se sont écoulées depuis ce courrier, l'Internet et la cybercriminalité en général ont énormément évolué. Donc, ce qui est important, c'est que les APD fassent la bonne déclaration maintenant. D'ailleurs, dans l'Union européenne, la propriété intellectuelle, c'est un droit fondamental. Alors, est-ce qu'ils ont accès à toutes les preuves nécessaires pour entreprendre cette analyse ? Ce qui nous préoccupe, c'est qu'on ne sait pas ce que les APD ont analysé pour procéder à cette évaluation. Dans la salle, allez-y, Erika. Nouvelle intervenante au micro, j'ai 2 commentaires. J'ai écouté à Yoran et JJ au début. Je pense que vous avez tous deux insisté sur le fait que, d'une certaine manière, vous aimeriez internationaliser le système RGPD européen. Je me demande si vous voulez le faire dans d'autres cas de figure juridiques pour l'avenir. Deuxièmement, par rapport à la demande faite pour un accès dans les cas légitimes à WHOIS. Est-ce que vous prévoyez de voir les systèmes qui existent actuellement, que ce soit de la part des entreprises d'Internet, opérateurs de téléphonie et autres, qui existent actuellement ? Yoran. Non, John Jeffrey au micro. Alors, pour ce qui concerne l'applicabilité, je pense qu'il faut voir ce qui va se passer avec le PDP, mais par rapport au modèle intérimaire, ce qu'on essaie de faire, c'est, bien sûr, ça doit s'appliquer à la zone européenne, zone économique européenne, mais il est difficile de faire une différence entre les parties contractantes qui se trouvent à l'intérieur de l'Union européenne et celles qui se trouvent en dehors. Et ce qui intéresse l'ICANN en tant que contrôleur de données, c'est cela justement. Essayer de donner une base commune mondiale pour tous. S'il y a des cas uniques où on n'a affaire que à des parties contractantes qui sont en dehors de l'Union européenne et qu'ils ont à leur disposition des options qui consisteraient à ne pas appliquer ce système, alors on pourrait l'envisager. Merci JJ, Steve Delbianco au micro. Là, c'est l'occasion d'interpeller les membres du panel, y compris le PDG, etc., et ne pas lire des déclarations. Numéro 4, s'il vous plaît.
Steve.
Merci beaucoup, Steve. Je suis désolée de prendre mon ordinateur, mais c'est un petit peu compliqué de prendre le micro. Je suis Brian, je suis président de l'IPC et j'aimerais simplement appuyer et brièvement ajouter un commentaire par rapport à ce qu'a dit Patrick et Tim. L'IPC a des déclarations écrites qui ont été soumises et j'encourage les uns et les autres à aller voir ce que nous avons publié. Nous continuons d'avoir de vraies préoccupations par rapport au modèle provisoire qui représente une menace potentielle pour pouvoir accéder aux informations pour l'IPC, pour d'autres personnes dans la communauté et pris tout ce qui est sécurité et agence d'application de la loi pour que leur travail puisse être effectué. J'aimerais encore une fois rappeler que Tim, Patrick et Catherine ont très bien développé le sujet, mais il y a un problème pour l'accès à des données critiques, également la candidature au niveau mondial et le manque de distinction entre la personne physique et la personne morale ou juridique. Donc voilà, nous avons déjà mentionné ceci, c'est très important. La possibilité du modèle de garantir la précision des données, la justesse des données, tout ceci est extrêmement important. Alors ma question, en fait, tourne autour de l'approche d'accréditation en général. Nous avons déjà parlé un petit peu de ceci lors du panel de ce matin. Je crois que notre vraie préoccupation, c'est avec le modèle intérimaire qui a été proposé, que la vaste majorité des données sera derrière un mur et ne sera pas accessible de manière publique. Donc, on va faire l'ICANN pour s'assurer que le modèle intérimaire ou provisoire ne sera pas lancé ou introduit sans processus d'accréditation adéquat en place. Donc c'est non seulement au niveau de l'IPC, mais au niveau de la cybersécurité et d'autres personnes. Il faut qu'il y ait accès à ces données pour que ces gens puissent faire leur travail. Il y aura nos micros. Merci, Brian. Encore une fois, cela vous montre qu'on en est à un point intéressant, puisque nous avons toutes ces questions. Mais ce qui est fondamental, c'est la chose suivante. Nous sommes en négociation, nous essayons de rassembler toutes les informations, mais nous savons que tout ce qui a été mentionné par Brian fait partie du document qui a été envoyé aux APD parce que nous n'avons pas la réponse. Personne n'a la réponse. C'est aux APD de nous dire ce qu'elles souhaitent et je crois qu'il est absolument important de reconnaître ceci. Nous en sommes à un point où les gouvernements européens, par le biais des APD, doivent nous indiquer ce qu'ils souhaitent. Parce que je souhaite le répéter, et je le répéterai à toutes les réunions que j'aurai là-dessus, pour moi, il y a une grande crainte. Si on n'a pas de ligne directrice très claire qui soit acceptable par les parties contractantes du point de vue juridique lorsque la loi sera adoptée, on se retrouvera avec un WHOIS très fragmenté. Et ça, c'est si l'on considère nos statuts, voilà où nous en sommes. L'ICANN n'a pas les mécanismes qui nous permettent de mettre ceci en application si on ne sait pas à quoi correspond la loi. Et ça, il faut absolument s'en souvenir. Chichi au micro. Alors, un petit ajout. Si vous regardez le modèle intérimaire qui a été publié, vous verrez qu'il y a 5 points spécifiques. Nous posons des questions aux APD et nous leur montrons ce qui se passe dans la communauté. Et les divergences d'opinion. Et je crois que cela fait partie de la discussion de cette semaine et nous allons continuer d'en parler. Il reste 4 minutes avant de quitter la salle, donc nous n'allons pas pouvoir prendre toutes les questions. Mais Yoran et JJ s'engagent à organiser une question publique pour répondre à toutes les questions ici cette semaine à Porto Rico. Est-ce qu'on pourrait confirmer? Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup que vous soyez là pendant 90 minutes, mais ce serait bien d'avoir 60 à 90 minutes en plus pour continuer la discussion. Et on regardera le bulletin de l'ICANN pour voir quand est-ce qu'on va organiser cette session. Alors, il nous reste une question Adobe de Steve Metalitz. COA, GG, c'est vraiment décevant parce que vous nous parlez d'anonymisation des emails. Vous avez déjà parlé de ceci lors d'un webinaire. Vous avez dit nous n'avons jamais prôné cette solution. Il y a eu un autre email qui vous a été envoyé par différents dirigeants et qui expliquait que cette substitution n'était pas nécessaire. Nous avons demandé à ce que l'email du 22 février corrige ce qui avait été publié. Donc, j'aimerais corriger encore une fois ce qui a été dit parce que c'est faux. Steve au micro. Microphone numéro 3. Merci beaucoup, Fabrizio Vara. Je crois que vous me connaissez, soit parce que je m'occupe du respect de la loi par différentes sociétés, soit parce que je représente ces sociétés en tant qu'avocat privé maintenant. Donc j'ai une perspective assez différente de vous, parce que je sais toutes les ressources qu'il faut pour la protection des marques, pour la protection des consommateurs, etc. C'est dommage qu'Alan soit parti, parce que je suis d'accord avec lui. Les choses, en fait, l'avenir est assez sombre. J'ai récemment écrit un article là-dessus, sur l'avenir du RGPD et sur son impact à l'avenir. Je crois vraiment qu'il y a un problème. C'est vraiment un problème, cet assombrissement. Si les gens ne peuvent pas nous protéger, ne peuvent pas appliquer la loi, faire respecter la loi. Donc ma question pour Yoran, c'est que ce qui est critique dans tout ceci, c'est l'accréditation. Et donc, pour qu'il n'y ait pas toutes ces atrocités qui se passent, de quoi avez-vous besoin de notre part pour qu'il y ait un modèle d'accréditation aujourd'hui, pour qu'on ne reparte pas après la semaine et qu'on se retrouve avec tout un tas d'atrocités? Je crois qu'on est tous d'accord du point de vue de la protection des consommateurs, de la protection des marques et du point de vue de toutes les parties contractantes. Ce que l'on ne souhaite pas, c'est avoir toutes ces atrocités avec des poursuites en justice de masse, avec un problème parce que les gens n'ont pas accès aux données. Il y aura nos micros. L'accréditation, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Si vous ne souhaitez pas avoir un WHOIS fragmenté fin mai, il faut travailler avec les États membres de l'Union européenne pour confirmer leur réponse du point de vue des APD. Ceux dont nous parlons dans cette salle, nous ne pourrons pas en fait le mettre en application par rapport aux membres contractants, aux parties contractantes. Donc, si vous faites partie de l'Union européenne, peu importe quel est votre camp, allez-y, allez embrasser votre représentant du GAC et demandez-lui humblement comment est-ce que on peut obtenir une réponse des APD. Et ensuite, une des réponses qu'il faut obtenir, c'est comment le modèle d'accréditation va fonctionner. Parce que dans la lettre de 2016, les APD européennes ont indiqué, ou plutôt nous ont mis sur la voie d'un accès sur couche, un accès à plusieurs niveaux. Donc c'est important. Nous allons continuer la discussion avec les APD. Nous avons une excellente relation avec elles. On ne l'avait pas avant. Nous essayons de renforcer cette relation et je crois vraiment que leur travail est excellent. C'est pas ça la question. Mais il nous faut absolument que le modèle multipartite soit aidé. Nous avons besoin de l'aide des membres du GAC. Donc, n'hésitez pas à aller embrasser vos membres du GAC quand vous les voyez. Nouvel intervenant au micro. Il faut absolument se rendre compte qu'il faut fournir les informations aux APD sur les délais. Et une des questions que nous avons à leur poser, c'est qu'est-ce qui peut être publié dans le WHOIS public selon le RGPD et à la date d'entrée en vigueur du RGPD. Si nous n'avons pas de modèle d'accréditation en place, qui ne peut pas être encore mise en œuvre. C'est ça le point critique. Avec les opérateurs de registre et les bureaux d'enregistrement qui disent qu'ils ne pourront pas mettre en place ce modèle d'accréditation en 10 semaines, c'est tout ce qui nous reste, eh bien, il faut absolument que les choses soient claires par rapport à ce que l'on peut continuer de publier. Est-ce que c'est le WHOIS détaillé ou pas? Il est difficile de croire que toutes ces APD vont nous donner des principes directeurs très clairs sur le programme d'accréditation. Comme Fabrizio l'a dit, on pourrait peut-être utiliser ce modèle intérimaire et voir si il y a réaction. Et c'est à eux de réagir si on n'a pas de principe directeur. Alors, nous allons maintenant clore la séance et nous en aurons une autre pendant la semaine. J'aimerais remercier le GAC et l'ABC pour leur organisation et bien sûr notre hôte de Porto Rico avec la danse magnifique qui nous a vraiment mis dans l'ambiance. Merci à tous.